Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Soyez tranquilles, rassurez-vous, ne croyez pas ce que vous voyez dans les médias, le réchauffement climatique c'est normal. Peut-être qu'on sort d'un petit âge glaciaire qui a duré du Moyen-Âge jusqu'à l'époque industrielle, et du coup, le réchauffement climatique, c'est juste un retour à la normale en fait. Bon, si vous entendez ça quelque part, je vous préviens tout de suite, hein, c'est ce qu'on appelle du bullshit. J'atomise le suspense, non, il n'y a pas eu de petit âge glaciaire. Mais on a eu froid, très froid autrefois. Et oui, si aujourd'hui ça chauffe, c'est un problème.
Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
Aujourd'hui, on va tenter de capter le lien entre évolution du climat et histoire. On se doute bien que ceux qui prenaient la météo pour un signe de Dieu ne voyaient pas les choses comme nous. Et puis, sans instrument de mesure et de registre, comment se souvenir de la météo d'il y a 100 ans ? Alors, ça va vous surprendre, mais dès le XVIIIe siècle, on faisait le lien entre activité humaine et climat. On voyait bien que la déforestation avait des effets. Mais vu qu'au XXIe siècle, il y en a encore qui n'ont pas l'air très convaincus, on va étudier le soi-disant petit âge glaciaire. Pour commencer, on parle d'âge glaciaire pour des échelles de temps géologiques. On constate un refroidissement global et important du climat. La glace s'étend massivement, sur Terre avec les glaciers ou sur mer avec les banquises. Sauf qu'attention, l'ère géologique, ça dure sur des centaines de milliers, voire des millions d'années. Les historiens fonctionnent à une toute autre échelle. Quelques décennies, une poignée de siècles, une pincée de quelques millénaires. Bref, l'expression « petit âge glaciaire », c'est déjà plutôt comique. Actuellement, nous vivons dans l'Holocène, une période interglaciaire. La température moyenne de la planète est de 6 à 7 degrés supérieure à celle de la glaciation précédente. Et rien que ce petit changement, c'est une Europe couverte de glaciers ou de steppes et des mers 120 mètres plus bas. On peut parler de petit âge glaciaire, mais alors, dans ce cas, pourquoi pas aussi de cataclysme sympa, ou de fin du monde relativement soft. Bref, retour à notre Holocène interglaciaire. Sa température est douce, mais surtout, elle est constante, stable. C'est comme ça depuis 9000 ans. On a réussi à se sédentariser et à fonder une agriculture, malgré quelques étés secs ou des hivers rudes. Si ça changeait dramatiquement tous les 10 ans, on mourrait tous de faim, tout simplement. Donc voilà l'explication. Il n'y a pas eu de petit âge glaciaire entre le Moyen-Âge et nous, parce qu'un âge, même petit, c'est beaucoup plus long et avec une différence de température beaucoup plus notable. Et s'il y en avait eu, eh bien, vous seriez au courant, hein, croyez-moi. Alors, d'où ça vient cette idée bizarre de petit âge glaciaire ? L'expression date de 1939, lorsque le géologue américain François-Émile Matt découvre des glaciers qui n'auraient pas pu survivre au début de l'Holocène. Ils sont donc forcément plus récents. Bien sûr, ces estimations de dates plutôt grossières ne peuvent s'appuyer que sur des tentatives de modélisation. Mais l'idée fait son chemin et peut se concrétiser au fur et à mesure des découvertes et des travaux. On finit par déterminer un optimum climatique. Autour de l'an 1000, il faisait probablement très chaud. Puis, il y aurait eu ensuite le fameux petit âge glaciaire qui aurait fait apparaître ces nouveaux petits glaciers. Avec le temps, l'expression ne désigne plus que le dernier de ces refroidissements qui irait du 16e au 19e siècle. Et là, ça tombe bien. Dans une période aussi courte, les historiens ont leur mot à dire et peuvent découvrir si ça colle avec les chroniques de l'époque. Ils peuvent aider les géologues. Alors, pourquoi ça les intéresse ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils font une hypothèse. Et si le climat avait influencé les sociétés passées ? Le premier à faire une telle étude est l'historien français Emmanuel Leroy-Ladurie, dans sa thèse secondaire publiée en 1967, « Histoire du climat depuis l'an 1000 ». Si c'est un incontournable aujourd'hui, à sa sortie, le livre ne fait pas trop parler de lui. En fait, ça intéresse presque uniquement les historiens des sociétés rurales. Logique, hein, climat égale agriculture. En dehors de ça, on se contente de quelques anecdotes, surtout lorsqu'un chroniqueur mentionne un événement climatique particulièrement spectaculaire et donc pas très révélateur de son époque. Heureusement, les chercheurs anglo-saxons insistent pour que l'histoire du climat soit étudiée, mais sous un angle de climatologue et non d'historien. Et si vous vous demandez sur quoi s'est basé le roi Ladurie pour son étude, parfois c'est assez inattendu. Par exemple, il étudie les dates de début de vendange. C'est pratique, car la récolte du raisin dépend directement du climat. Et en plus, il s'agit d'un événement public où l'on fait la fête, donc c'est mentionné dans les archives. Le chercheur écume alors d'immenses collections et parvient à réaliser des séries et des séries de dates de vendanges, parfois longues de plusieurs siècles. Et cette technique a un nom, on parle d'un proxy. Petite parenthèse vocabulaire, mais vous allez le voir, c'est plutôt facile. Dans les rapports du GIEC, par exemple, on appelle « données directes » ou « direct data » tout ce qu'on a pu relever sur le climat à l'époque. Température, pluviométrie, humidité, etc. Si on manque de direct data, heureusement, il y a les données indirectes. C'est ce qu'on appelle les proxys. C'est pas la météo, mais c'est lié à elles. Par exemple, les fameuses dates de vendange. Plus elles ont lieu tôt, plus l'année a été chaude, c'est certain. C'est bien pratique, parce qu'il faut attendre le 19e siècle pour que les États mettent en place des bureaux météorologiques nationaux avec des relevés systématiques. Avant, au XVIIe et XVIIIe siècle, on ne peut compter que sur des listes établies par des savants isolés. Les proxys viennent donc combler les trous. Alors, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien, et il y a plein de proxys. Date des moissons, rendement des récoltes, croissance des arbres, étude des pollens conservés qui renseignent sur les espèces végétales présentes, étude des carottes de glace qui donnent la concentration en CO2 dans l'atmosphère, etc., etc. L'archéologie aussi s'en mêle. Par exemple, les humains ont créé des aménagements pour recueillir les eaux des fontes, ce qui indique si les glaciers ont avancé ou reculé. Rarissimement, des sources historiques indiquent même un direct data. Par exemple, quand un chroniqueur indique la première neige de l'année. C'est toujours utile, mais tellement rare et souvent limité dans le temps. Sans trop entrer dans les détails, en croisant toutes ces méthodes, toutes ces sources et toutes ces datas, on finit par pouvoir donner des estimations du climat. Ok, alors tout ça, c'est dans les archives historiques. Mais on cherche des données de sciences dures, celles des climatologues, physiciens et autres géologues. Un super ordinateur, il analyserait tout ça très bien tout seul. Alors, à quoi sert l'historien ? Eh bien, justement, lui, il étudie autre chose, le contexte de production des archives. Une vendange plus précoce, ça peut être le signe d'un climat chaud, ou la conséquence d'un endettement du pays. Suite à une dette, les vignerons ont peut-être dû vendre plus vite leurs récoltes. Et donc, ça n'aurait rien à voir avec le climat. Ou, au contraire, des propriétaires retardent la récolte pour vendre plus tard à meilleur prix. Ou alors, une guerre a tué toute la main-d'œuvre. Bref, sans le contexte, sans l'historien qui compare les chroniques, l'archéologie ou les différentes régions, eh bien, c'est galère pour ne pas se planter. Morale de l'histoire, historiens et climatologues ont tout intérêt à s'entraider. Bon, mais notre petit âge glaciaire alors dans tout ça. Premier point sur les températures décrites dans le rapport du GIEC. La température moyenne de la planète n'a pas baissé ou alors de façon négligeable. Mais en effet, si on se concentre sur l'Europe, la variation a été plus importante. Mais même là, il ne s'agit globalement que d'un léger refroidissement. On peut même en refaire la chronologie. Au début du XIVe siècle, une suite d'hivers rigoureux frappe les contemporains. La mer Baltique gèle, des récoltes sont gâchées et les disettes s'éternisent. Bon, en plus, pas de bol, c'est le début de la guerre de Cent Ans et l'arrivée de la Grande Peste. Autant dire qu'en effet, on ne rigolait pas beaucoup à ce moment-là. Autre signe révélateur, la culture du raisin recule fortement vers le sud. Il devient presque impossible dans certaines régions, notamment dans les îles britanniques, de le cultiver. Or, on boit du vin depuis l'époque romaine, et en plus, c'est un composant nécessaire à la liturgie chrétienne. Donc les chroniqueurs en parlent, forcément. S'assurer un approvisionnement en vin devient un impératif pour le clergé. Les plus grands monastères vont jusqu'à acheter des terres plus au sud, rien que pour se fournir. Pour la fin du XVIe siècle, l'historien Christian Pfister rapporte que les Pays-Bas connaissent des gelées dès août et des premières neiges tout début octobre. De même, entre le XVe et le XIXe siècle, la Tamise à Londres gèle pas moins de 24 fois. Parfois, on peut carrément passer à pied d'une rive à l'autre. Si le commerce maritime de la ville est bloqué, ça n'empêche pas les plus malins d'organiser des frostfairs, des fêtes gelées, c'est-à-dire des foires avec leurs stands directement sur la glace du fleuve. Le plus impressionnant est le grand froid de 1683-1684. Les ports de la mer du Nord souffrent, le froid rentre dans les terres, au point de geler Bruxelles pendant plusieurs semaines d'affilée. Mais le pire est à Londres. Le peintre Thomas Wick nous représente un fleuve figé pendant 2 mois avec une épaisseur de 30 cm qui permet même d'y organiser des courses de chevaux. Alors entre le fait que ça devait quand même glisser pas mal et l'appréhension de voir la glace se rompre, je suis pas sûr que j'y aurais participé. Mais bon, fallait bien s'amuser, je suppose. Plus sérieusement, tout ça vous paraît assez dingue et vous fait même froid dans le dos. Eh bien, dites-vous que tout ça, c'est local. On ne peut pas parler d'un âge glaciaire planétaire, un peu comme un élève qui a une ultra mauvaise note. Il va le sentir passer, mais la moyenne de la classe ne chute pas drastiquement. En attendant, l'Europe cumule sa douleur, ça c'est vrai. Les glaciers avancent au point que certains villages de montagne finissent par être abandonnés. Certes, on ne parle pas d'un mur de glace façon le jour d'après, mais ça reste assez impressionnant. Par exemple, dans le Valais, le glacier Aletsch, le plus grand des Alpes, progresse jusqu'à 40 mètres par an vers la fin du XVIe siècle. Les pâtures, puis les maisons sont menacées. Mais heureusement, les villageois ont un pote pour les aider à ralentir ce fléau, et ce pote, c'est Dieu en personne. En 1653, le clergé local et des jésuites organisent une cérémonie et une procession afin d'ordonner au glacier d'arrêter sa course. C'est pas moins de 7 jours de cérémonies diverses, avec notamment la construction de statues de saints en face du glacier et de l'aspersion d'eau bénite. Oui, pour arrêter un glacier, ils balancent de l'eau dessus. Alors c'est vrai qu'avec le recul, ça peut paraître un peu idiot. Mais il faut se dire qu'à l'époque, on vivait l'environnement comme une manifestation de Dieu. Et en plus, ça marche. Coup de bol, le milieu du XVIIe siècle est justement la période durant laquelle l'expansion semble s'arrêter, probablement à cause d'un temps trop sec. Mais le problème continue d'exister ailleurs. Par exemple, au XVIIe et XVIIIe siècle, les marchands de la Loire craignent régulièrement d'être pris au piège dans les glaces. Pour empêcher que leurs marchandises ne soient broyées avec leurs bateaux, ils prennent l'habitude de tout décharger, quitte à chambouler leur calendrier. Tout le pays doit s'adapter aux rigueurs de la météo. On est bien loin de notre quotidien béni où, sauf accident, les colis et les marchandises arrivent toujours à l'heure. Mais bientôt, tous ces phénomènes extrêmes vont se résorber, vers le milieu du 19e siècle. Pour conclure donc, non, il n'y a pas eu de petit âge glaciaire, cette appellation est fausse. Et en aucun cas, on ne doit douter du réchauffement climatique à cause de ça. En revanche, c'est vrai que chez nous, en Europe, on a pris très cher. D'ailleurs, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a une hypothèse assez étrange pour expliquer ça. Bien sûr, c'est à mettre dans son contexte, car le climat dépend de plein de facteurs. Mais certains se demandent si l'arrivée des Européens en Amérique du Sud n'a pas joué un rôle. Et oui, avec 50 millions de morts du 15e au 17e siècle, les surfaces agricoles ont beaucoup diminué. Elles ont été reprises par une forêt très dense qui stocke un énorme volume de carbone. Les calculs de certains chercheurs montreraient que la quantité de CO2 qui a pu être retirée de l'atmosphère à cette époque, par l'extension des surfaces forestières, a réduit la concentration atmosphérique de CO2 et a probablement contribué à refroidir ainsi le climat. Exactement l'inverse de ce que l'on vit aujourd'hui. Car si l'on ne peut pas parler d'un refroidissement global auparavant, en revanche, aujourd'hui, on expérimente bien un phénomène plus rapide, global et ample, mais en sens inverse. Le dérèglement climatique d'origine humaine nous invite à prendre conscience de l'ampleur de ce qui nous attend. Rappelez-vous toutes les horreurs que je viens de décrire et dites-vous que ce n'était qu'un accident local. Et maintenant, projetez un réchauffement, mais bien plus grave et bien plus important. Ça peut paraître effrayant, mais le mieux pour lutter, c'est d'être informé. Merci à Tanguy Massin pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ah!
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.